Amen, alléluia. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7 et au verset 1er. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez déjà essayé d'imaginer le miracle formidable, le miracle grandiose dont il nous est parlé là, c'est-à-dire le feu de Dieu descendant sur toutes ses victimes, pour ses holocaustes, pour les consumer en un instant? Vous savez, quand Dieu envoie son feu, il n'y a rien qui résiste. Rappelez-vous, lorsque le prophète Élie s'est retrouvé sur le mont Carmel, hein, rappelez-vous, il avait fait dresser un autel de pierre brute, là. Il avait mis dessus son offrande, son sacrifice, il avait arrosé sa d'eau avec un fossé autour rempli d'eau pour que vraiment on soit sûr qu'il n'y ait pas de trafic. Hein. Et Dieu a envoyé son feu et en une fraction de seconde, tout a été consumé. Tout, c'est-à-dire l'holocauste, les pierres, le bois, l'eau, tout a été consumé. Hein. Ça, c'est le feu de Dieu quand il descend. Et ça a été certainement un spectacle grandiose et extraordinaire à ce moment-là. Il faut se souvenir qu'avant la prière de Salomon, qu'on trouve donc dans tout le chapitre précédent, il y avait eu un autre miracle particulièrement admirable. On en a parlé il n'y a pas si longtemps. C'était la nuée de la gloire de Dieu qui était entrée dans le temple, dans le sanctuaire, et cette gloire de Dieu avait tellement rempli les lieux que tous les sacrificateurs avaient été obligés de sortir. Donc c'est dans le chapitre 5, du verset 11 à 14, qu'on avait vu cela. Et donc entre ces deux miracles, il y a eu cette prière de Salomon qui nous est rapportée dans son ensemble dans les 42 versets du chapitre 6. C'est la prière la plus longue que vous trouvez dans la Bible, à part le psaume 119. Voilà. Et donc cette prière doit vraiment être d'une grande importance pour être ainsi rapportée dans les détails. D'ailleurs, on la retrouve aussi en entier dans le premier livre des Rois au chapitre 8. Ça veut dire que cette prière est vraiment exemplaire pour nous. Et si on voulait lui donner un titre, on pourrait dire, sans exagérer, la prière par laquelle le prodige de Dieu est obtenu. La prière par laquelle le grand miracle de Dieu est obtenu. Il est important de rappeler que la prière a vraiment une puissance considérable et je crois que c'est plus que jamais important de le rappeler pour les chrétiens de Chalon. Eh oui, c'est vrai. Hein. Parle aujourd'hui de l'importance de la prière dans la vie du croyant, de l'assemblée, de la puissance de la prière d'après notre texte, et c'est plus que jamais nécessaire de le faire aujourd'hui. Nous pouvons en effet penser que la crise du Covid a été une épreuve par laquelle Dieu a permis que nous puissions passer en tant qu'assemblée, ainsi que chaque croyant de cette assemblée. Et avant la fermeture des églises, rappelez-vous, nous avions cette occasion dans la semaine où nous avions cette possibilité, ce privilège de pouvoir prier ensemble. Il y avait le mardi après-midi, un moment de prière. Le mercredi soir, c'était la réunion de prière. Vendredi soir, il y a un moment de prière aussi. Le samedi, la réunion de jeûne. Le dimanche matin, au culte. Dimanche après-midi, à la réunion d'évangélisation. Alors, c'était, suivant les moments, de la louange, de l'adoration, de la prière pour différents sujets, de la prière pour, à l'imposition des mains, pour les frères et sœurs. Alors, tous ne pouvaient pas forcément participer aux sept, mais beaucoup participaient cependant à plusieurs. Et donc est arrivé ce moment où tout le monde est resté cloîtré chez soi et avec les moyens de communication et d'édification dont nous disposions, nous avons tâcher de maintenir une communion, une solidarité, voilà, autant que possible dans la situation. Et puis progressivement, le moment est apparu où on a pu se retrouver, comme on dit, une expression qui est apparue aussi, en présentiel. Hein, voilà, apparu là, avec moins d'occasions de prier ensemble, chaque semaine, trois, dans le cadre de l'Assemblée, le mercredi soir, le vendredi soir, le dimanche. Alors, est-ce que c'est de la naïveté de ma part ? Je ne sais pas. Est-ce que je me suis dit, à tort, que les fidèles, tout heureux de pouvoir se retrouver, allaient se précipiter sur ces trois occasions de prière commune, en attendant d'avoir plus, hein ? Certains l'ont fait, et ils continuent, que Dieu les bénisse, hein ? Et un grand point d'interrogation demeure quand même pour d'autres, hein ? Alors, on peut se dire, ils ont dû profiter de la crise pour instaurer une vie de prière familiale plus forte et plus intense, hein, ou une vie de prière personnelle plus profonde. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que ça a vraiment été le cas ? Alors bien sûr, les arguments habituels du monde vont à nouveau servir d'alibi. On n'a pas le temps, il y a trop de travail, trop de sacrifices, trop fatigant. Et on pourrait encore et toujours répondre, on peut toujours répondre, ben c'est une question de foi, c'est une question de priorité aussi, une question de croire que Dieu exauce, que Dieu renouvelle, que Dieu veut bénir ceux qui s'accordent pour prier ensemble. Hein. De toute manière, je dirais qu'il en sera des réunions de prière, par exemple, comme du fait d'aller au ciel, c'est que pour les volontaires. Hein. On est bien d'accord. Mais en tout cas, nous ne pouvons et nous devons qu'inviter chacun de nous, en particulier ceux qui sont là depuis au moins quelques années, à examiner la réalité de leur vie de foi et de prière, la réalité de leur vie de communion fraternelle, de leur communion avec Dieu, pour voir où ils en sont, puisque l'Écriture nous invite chacun à nous examiner, à nous éprouver nous-mêmes, pour voir si nous sommes approuvés de Dieu ou non. Hein ? Et pour ma part, la conclusion que je tire, c'est qu'il est plus que jamais nécessaire, même plus nécessaire qu'avant le Covid, de parler de la prière au milieu de nous, en espérant que plusieurs vont se ressaisir. Voilà, donc j'en arrive à ce passage qui nous décrit la puissance considérable de la prière, qui nous encourage à prier. Faites-en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quelle prière. Il ne s'agit pas de ces espèces de répétitions mécaniques comme on les enseigne trop souvent dans les religions traditionnelles. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Au contraire, il s'agit d'une prière du cœur qui sort du plus profond de notre âme. Vous ne recevez pas, dit l'apôtre Jacques, parce que vous ne demandez pas. Et ça, c'est le cas de beaucoup qui n'ont jamais voulu crier à Dieu, qui ont toujours négligé de le faire. Et l'apôtre Jacques continue en disant, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Comment Dieu peut-il exaucer une prière dont les motivations ne sont pas bonnes ? Ou encore, il est écrit, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Comment Dieu va-t-il répondre à la prière de quelqu'un qui lui désobéit et qui ne veut en faire qu'à sa tête ? Mais dans la réalité, la prière a une puissance véritable et considérable, et nous en avons l'exemple dans notre texte, avec les résultats qui nous sont exposés. La prière est puissante pour obtenir toutes sortes de prodiges et de miracles, autrefois comme aujourd'hui. Alors, nous nous attacherons ensemble à examiner les principaux caractères de la prière de Salomon, en sachant que, bien sûr, nous retrouverons les mêmes éléments dans toute prière que Dieu veut exaucer. Et nous attacherons surtout à appliquer ces choses à nous-mêmes, afin que le Seigneur puisse aussi, de la même façon, nous exaucer admirablement. Amen. Et nous pouvons voir qu'il y a sept choses dans cette prière. Là, maintenant, nous retournons en arrière dans le chapitre 6, dans cette fameuse prière, donc. Pardon. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'il s'agit d'une prière qui bénit. Et nous lisons depuis le verset 3 jusqu'au verset 11. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse une maison où réside mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il soit chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside, et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison en mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel. » Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Amen. Voilà. Donc, vous voyez que la prière de Salomon, ce n'est pas juste au début, donne, comme la sangsue. Hein, ce n'est pas comme ça, on le voit. Il ne commence pas en cherchant à tout prix à ce que ce soit lui qui soit gratifié avant tout. Il n'est pas là le centre des préoccupations et de son attention. Et nous le voyons qui tourne son visage, il dit, vers le peuple de Dieu et qui commence par prononcer sur eux la bénédiction de la part de l'Éternel. Et immédiatement après, nous le voyons qui bénit Dieu. Il dit de bonnes choses du Seigneur. Il rappelle les bonnes paroles que David a reçues de Dieu. Avec reconnaissance, il mentionne la grâce qui lui a été faite à lui, Salomon. Il met en avant la fiabilité de la parole de Dieu, dans le verset 10 en particulier. Bref, il dit et il fait tout le bien qui lui est possible envers le Seigneur et envers le peuple de Dieu. Amen. Et voici donc une première indication importante quant à la personne que Dieu va pouvoir exaucer et aux besoins de laquelle il va pourvoir, quels que soient ses besoins. Donc, le fait de rechercher le bien d'autrui, le fait de rechercher la gloire de Dieu et l'avancement de sa cause, le fait de se détourner de soi avec la préoccupation de bénir, le fait de s'attacher au Seigneur et à sa parole de tout son cœur et de toute son âme. Amen. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous pouvons voir sur les sept, voici un engagement public à marcher devant le Seigneur de tout son cœur. Nous lisons au verset 12 jusqu'au verset 14. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain, il l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées, haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Amen. » Voyez les détails de l'engagement de Salomon. Il se place devant l'autel de l'Éternel, début du verset 12, c'est-à-dire devant Dieu. En même temps, il se place en face de toute l'assemblée pour que tous, sans exception, soient témoins de son engagement et autant que possible, bien sûr, participants. Et puis, encore, dans ce verset 12, à la fin, il étend ses mains en signe de supplication devant le Seigneur pour montrer que tout roi, sage et puissant qu'il soit lui-même, sans le Seigneur, il n'est rien. Et qu'il a continuellement besoin de chercher sa face, sa présence et sa volonté. Vous avez remarqué qu'il a fait aussi une tribune d'airain. L'airain, c'était du bronze. C'était l'alliage le plus solide qu'on connaissait à l'époque. Donc, cette tribune d'airain, et il s'y est mis pour prendre cet engagement. Et la solidité, l'inusabilité de cet terrain nous montre combien il voulait que son engagement soit ferme et durable. Et cette tribune était un terrain aussi parce que Salomon pensait assurément à en faire un instrument du culte qui soit utilisé de manière régulière et suivie. Vous savez, le fait de s'engager solennellement ce jour-là, c'était certainement une excellente chose, et ça doit nous parler aussi des engagements solennels de tout notre cœur dans notre propre vie. Mais vous savez, mes amis, nous savons, je pense tous, que les meilleurs désirs, les meilleurs sentiments, les meilleurs élans s'émoussent, qu'ils s'estompent, et que nous pouvons tous devenir oublieux, nous décourager, nous laisser distraire, nous laisser détourner du but. Ce qui fait que nous avons effectivement un grand besoin de renouveler notre engagement de façon régulière, consciente et solennelle. Et nous voyons bien que Salomon lui-même en aurait eu le plus grand besoin, puisque progressivement, il s'est laissé aller. Alors que pourtant, Dieu lui était apparu deux fois et que Dieu lui avait fait de si grands encouragements et de si belles promesses. Et si cette estrade était en airain, c'était aussi pour qu'elle puisse supporter le poids de tous ceux qui viendraient à la suite de l'exemple de Salomon s'engager et se consacrer de tout leur cœur. Et nous avons tous besoin de nous engager de cette manière. C'est besoin de nous consacrer ainsi. Et nous avons besoin de le faire de façon publique et devant l'Assemblée des fidèles en particulier. Et de le faire en nous humiliant tout à nouveau devant Dieu et devant les hommes et en nous engageant tout à nouveau dans la voie du service. Amen. Amen. Voilà ce qui nous est bénéfique. Voyez que cette tribune aussi était haute de 3 coudées, c'est-à-dire juste assez pour que tout le monde puisse le voir. Mais pas trop non plus, pour que personne n'ait l'impression qu'il voulait s'élever au-dessus des autres et qu'il devienne inaccessible, hein, c'est ce qu'on voit dans le verset 13. Et il est marqué là encore, à la fin du verset 13, qu'il s'est mis à genoux pour s'humilier devant Dieu. Ça nous rappelle toujours, vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles et il sauve le peuple qui s'humilie. Amen, alléluia. Et ensuite, verset 14, il s'engage dans cette voie de service. Tout roi qu'il soit, il sait que son devoir premier, ce n'est pas de dominer, ni de réclamer toutes sortes d'honneurs, mais d'être au service de ceux sur lesquels Dieu l'a établi, de travailler à leur bien et d'être aussi désormais dans sa sphère d'activité et selon tous ses moyens, un véritable serviteur de Dieu. Amen. Amen. Et puis il veut marcher. C'est ce qu'on voit aussi dans verset 14. Ça veut dire qu'il veut aller de l'avant. Il veut aller de l'avant. Il réalise bien que sa décision d'engagement, aussi solennelle que soit cette cérémonie, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Mais il veut aller de l'avant. Il veut marcher de progrès en progrès dans la voie de la volonté de Dieu. Il ajoute même qu'il veut marcher de tout son cœur, dans ce même verset 14. Pas que ce soit juste pour l'apparence. Hein. Pas que ce soit à cause de la circonstance favorable. Pas que ce soit à cause de tous ces gens qui sont rassemblés là. Pas pour que ce soit un feu de paille émotionnel et passager, non, mais un engagement pour Dieu, réel, profond, de tout son cœur et de toute son âme. Et Dieu cherche des gens qui s'engagent ainsi. En tout temps, Dieu cherche des gens qui s'engagent de cette manière-là. Dieu cherche un homme, une femme qui le fasse. Et trouvera-t-il encore des gens courageux, décidés, honnêtes avec eux-mêmes, conséquents? Trouvera-t-il des gens qui ne veulent pas s'enorgueillir, mais qui s'humilient avec joie sous la puissante main de Dieu? Trouvera-t-il des hommes et des femmes prêts à le servir, à marcher de tout cœur en sa présence aujourd'hui? Amen. Trouvera-t-il cela? Et remarquez aussi que le Seigneur ne demande pas des choses qui seraient impossibles à certains. Le Seigneur ne demande pas une intelligence hors du commun. Il ne va pas demander des connaissances multipliées de grands diplômes. Il ne va pas demander une moralité, une réputation sans faille. Il ne va pas demander une forme physique olympique. Il ne va pas demander des facultés exceptionnelles. Ce qui est nécessaire, frères et sœurs, c'est cette droiture de cœur qui débouche sur cet engagement à suivre le Seigneur de tout son cœur. Et comment le Seigneur ne répondrait-il pas aux prières de ceux qui s'engagent de telle manière? Amen. Et notre point suivant suit fort logiquement le précédent. Voici un culte rendu, maintenant c'est un troisième point, en esprit et en vérité. Et là, nous pouvons lire ensemble les versets 18 à 21. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux. Exauce et pardonne. Amen. Alléluia. Dieu venait de faire ce grand miracle. Il allait en faire un autre dans ce lieu. Mais Salomon savait que ce n'était pas le lieu qui était le plus important, bien qu'il ne soit pas sans importance. Salomon savait que ce n'était pas l'assemblée qui était importante sur ce point-là, bien qu'elle soit aussi indispensable par elle-même. Salomon savait que c'était la disposition de son cœur et de son âme qui était le plus important, la manière dont son être était disposé devant Dieu. Et c'est pour cela que dans ce passage, vous le voyez, répété, je n'ai pas compté le nombre de fois, vous pouvez le faire, c'est facile, le nombre de fois où il demande à Dieu d'exaucer sa prière, le nombre de fois où il demande à Dieu de répondre à sa prière. Il supplie Dieu d'écouter tous ceux qui vont venir dans de semblables dispositions. C'est ceux-là qui verront leur prière exaucée. Mon frère, ma sœur, veux-tu que ta prière soit exaucée ? Alors ne t'attache pas avant tout à ce lieu, même si Dieu y a fait beaucoup de miracles. Ne t'attache pas avant tout à cette assemblée, même si elle a été un moyen de bénédiction pour beaucoup. Ne t'attache pas avant tout à tel ou tel prédicateur, même si Dieu a pu l'utiliser pour parler à bien des cœurs. Ne t'attache pas avant tout à tel chrétien fidèle ou à telle croyante rayonnante, même si la bénédiction de Dieu est de toute évidence sur sa vie. Ne t'attache même pas tant à ce volume qui est peut-être dans ta main maintenant, même si c'est marqué la Sainte Bible dessus, parce que à quoi te servirait-il de mettre cette Bible, par exemple, sous ton oreiller si ton cœur n'est pas droit devant Dieu ? À quoi cela servirait-il ? À quoi te servirait-il d'être au milieu de la société de tous ces fidèles si tu n'es pas un adorateur en esprit et en vérité ? Et je te le dis, chacun de ces simples croyants serait un ange resplendissant de gloire et de majesté. Tu n'en retirerais aucun bénéfice si la disposition intérieure de ton cœur n'est pas comme elle doit être. C'est important. En vérité, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut qu'ils crient à Dieu pour être changés. Il faut qu'ils implorent la grâce d'un cœur régénéré. Il faut qu'ils naissent de l'esprit. Il faut qu'ils passent par la nouvelle naissance, qu'ils naissent d'en haut et qu'ainsi ils soient indéfectiblement attachés à la vérité de la parole de Dieu dont ils vont désormais nourrir leur âme, qu'ils vont appliquer avec joie dans leur vie et qui sera leur plus précieux trésor. Amen, amen. Et notre quatrième point, celui qui prend le plus de place dans le texte de la prière, ça nous parle de l'importance d'une véritable repentance. Alors nous allons lire déjà les versets 22 à 31. Si quelqu'un pèche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les les cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, ben oui, c'est bien ce qui s'est passé ces derniers temps en France, hein. S'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme... Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Ainsi, ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à leur père. Et je lis encore au verset 36, « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Amen. Là, il est question de quelque chose de fondamental. la repentance. Et nous avons le développement des divers éléments constitutifs de cette repentance, justement dans ce que nous venons de lire. D'abord, il y a la fausse repentance, l'hypocrisie, le mensonge dans la maison de Dieu. C'est quoi, versets 22 et 23. Et c'est vrai que c'est une terrible chose que de pouvoir ainsi faire des serments de mensonges dans le temple du Seigneur. Et c'est pourtant une éventualité que Salomon, grand connaisseur de la nature humaine, est obligé d'envisager le jour même où la gloire de Dieu se manifeste. Oui, il peut arriver que des hommes soient assez retors et intelligents au mal pour tromper leurs semblables et même leurs plus proches. Il peut arriver qu'ils soient assez impudents, effrontés et endurcis pour faire un serment mensonger, sans trembler, sans sciller et à voix haute et claire. Mais Dieu voit, Dieu sait, Dieu connaît, béni soit son nom. Et il manifestera la différence, que ce soit tôt ou un peu plus tard, et la prière sincère et véritable sera exaucée, tandis que l'autre, voilà, c'est tout. Et puis, il nous est parlé du péché et de ses conséquences. C'est ce que nous avons lu. Je relis, on pourrait voir début du verset 24, mais je ne lis pas, début du verset 26, et puis le verset 28 aussi, voilà. Donc, que ce soit directement ou indirectement, vous savez, le péché finit toujours par nous atteindre. Et quand je dis indirectement, eh bien, je me souviens de quoi ? Je me souviens de la condamnation qui nous est venue en Adam. Hein ? Parce que la mort, la maladie, diverses souffrances, divers malheurs, sous toutes leurs formes, bien, ça vient de là. Hein ? Indirectement, on subit ses conséquences. Nous nous souvenons qu'il est écrit que les parents ont mangé des raisins verts et que les dents des enfants en ont été agacées. Nous nous souvenons aussi de ceux qui pratiquent des choses occultes et qui font supporter de terribles conséquences jusqu'à 3 ou 4 générations de leurs descendants. Hein ? Et nous pourrions parler de beaucoup de choses semblables encore. Voilà, ça c'est, je dirais, la manière indirecte. Hein ? Mais dans la repentance, nous avons une prise de conscience, c'est celle que le péché a des conséquences. Que si on ne veut plus être battu par l'ennemi, si on ne veut plus que le ciel soit fermé sur nous, si on ne veut plus être en butte à ses adversaires, si on ne veut plus être frappé par la maladie ou des fléaux quelconques, il faut passer par la repentance. Et ça, ça nécessite la reconnaissance de notre péché et de notre culpabilité. On pourrait voir ça dans la fin du verset 24, à la fin du verset 26 et surtout dans le verset 37. Nous disons, s'ils reviennent à toi, t'adresse des supplications dans le pays de leur captivité, qu'ils disent nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. Voilà, donc cette prise de conscience. Hein. Ça ne sert à rien de chercher des responsables de ce qui nous arrive ailleurs qu'en nous-mêmes. C'est vrai qu'il y en a. Hein. C'est vrai que nous ne sommes pas les seuls coupables. Hein. Nous sommes tous plus ou moins des victimes quelque part. Hein. Mais si nous nous focalisons là-dessus, une fois que ce sera bien lamenté sur notre propre cas, dites-moi, qu'est-ce qu'il va y avoir de mieux ? Hein ? C'est la question quand même. Hein ? Qu'y a-t-il de changé ? Au contraire, les choses ne pourront aller qu'en empirant. Nous sommes cependant coupables. Et c'est ce qui est écrit là. Hein ? Personne ne peut contester au verset 36 l'affirmation qui dit « Il n'y a point d'homme qui ne pêche. Hein ». Ça veut dire, ben voilà, tous les hommes pêchent. Tous ont besoin de s'humilier devant Dieu et de reconnaître leur culpabilité et leur péché. Je vais vous lire un petit texte qui a pour titre « Ne vous comportez pas en victime ». Justement, c'est une personne qui explique que, voilà, elle avait ce sentiment perpétuel d'être une victime parce qu'elle avait subi des injustices, etc. Et puis voilà ce qu'elle a écrit. « Finalement, je n'ai eu assez de me comporter en victime. J'imaginais que si mes blessures affectaient la vie des autres, je me sentirais mieux. Mais cela n'a pas été le cas. Je pensais qu'en rendant les autres responsables de mes souffrances, je me sentirais mieux. » Mais ce n'a pas été le cas. J'imaginais que si je racontais à tout le monde ce qu'il m'avait fait subir, je me sentirais mieux. Mais ce n'a pas été le cas. J'ai perdu mes amis et je ne me suis pas senti mieux pour autant. J'ai pensé que s'ils se rendaient compte de la souffrance qu'ils m'avaient causée, je me sentirais mieux. Ils ne s'en sont pas rendus compte et je me suis senti encore plus misérable qu'avant. J'ai cru alors que si je comprenais moi-même pourquoi j'avais cherché à entretenir de bonnes relations avec Dieu, cela m'aiderait. Je me suis mis à lire des livres, à discuter avec des psychologues. Mais ma situation a empiré, car j'ai découvert des problèmes au fond de moi que j'ignorais encore et que je n'avais pas la force émotionnelle de gérer. Je m'accrochais alors à l'idée que le temps améliorerait les choses et que la souffrance s'estomperait à la longue. Certes, je me suis senti un peu mieux, mais sans connaître la vraie guérison, car trop d'événements continuaient à raviver de vieux souvenirs douloureux. Je pensais qu'en partant loin de chez moi et en m'installant dans une nouvelle ville et dans un nouvel emploi, je me sentirais mieux. Mais ce n'a pas été le cas. J'avais changé d'adresse, mais mon cœur n'avait pas changé. Enfin, j'ai pris deux décisions qui m'ont aidé à changer. Certes, pas en une seule nuit, mais peu à peu. D'abord, j'ai décidé une fois pour toutes de pardonner et de continuer à pardonner jusqu'à ce que le passé cesse d'avoir de l'emprise sur moi. Ensuite, j'ai crié à Dieu, « Fais-moi revenir et je reviendrai à toi », comme c'est marqué dans Jérémie 31, verset 18. Il a répondu à ma prière. J'ai commencé à voir les choses sous un jour nouveau et mon cœur a commencé à guérir. Pourquoi ? Parce que j'avais enfin compris que la recherche de la guérison était devenue plus importante à mes yeux que mon sentiment d'être une victime. Intéressant, hein ? Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, voilà, il est question aussi, toujours dans la notion de repentance, il est question de détournement du péché et de retour à Dieu. Hein ? Donc, voilà, il faut quand même se dire une chose, c'est que la repentance, c'est quelque chose de douloureux. C'est pas très populaire à dire comme discours, mais c'est quand même une réalité. Hein, donc, nous vivons dans une société, la société occidentale, qui n'aime pas souffrir, et bien sûr, ça se comprend, hein, et la science lui offre de multiples moyens d'éviter d'avoir mal. Il faut toujours calmer la souffrance, puisque notre philosophie, c'est de la bannir de toutes les sphères de notre vie. Dans le monde professionnel, on fait reculer la pénibilité, on essaye au moins. L'accouchement doit être sans douleur, l'éducation doit être sans fessée, les débats doivent être sans mots blessants. Hein, voilà. D'accord, on ne va pas chercher la douleur pour la douleur, mais vous savez, dans le domaine de la foi, le problème, c'est qu'après, on veut refuser d'envisager que la pédagogie de Dieu passe par la souffrance. Pourtant, je vais vous dire, malheureusement, et c'est un constat qu'on peut faire quand on sert le Seigneur depuis des années en particulier, c'est la plupart du temps au cœur de la souffrance que l'homme commence à se poser des vraies questions. Que l'homme commence à se poser des questions existentielles qui peuvent l'amener à Dieu. La plupart du temps, c'est comme ça. C'est un fait, c'est une constatation. On ne pouvait pas évacuer ça. Donc, ça veut dire que quand même, ça a sa place, ça a sa nécessité. Vous savez, aujourd'hui, il faut que dans les églises, au culte, tout le monde soit bien. Voilà, on va privilégier la louange et l'adoration, et c'est vrai, et c'est important à faire. Hein. Donc, mais voilà, on va dire, s'approcher de Dieu, c'est symbole de jubilation, d'extase, d'éclatement de joie. Alors tout ça, c'est pas faux, mais il faut quand même se souvenir que dans la Bible, lorsque vous regardez dans l'Écriture, celui qui s'approche de Dieu est avant tout frappé de sa grandeur, il est avant tout frappé de sa pureté, et ça va se heurter avec violence à notre indignité, à notre petitesse, et ça produit la repentance. Et lorsque vous regardez, je ne sais pas moi, par exemple, le psaume 6, « Je m'épuise à force de gémir, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. » C'est la repentance. Lorsque vous regardez dans le psaume 38, « Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi, un mal brûlant dévore mes entrailles. » C'est la repentance. Lorsque vous regardez le psaume 102, « Je mêle mes larmes à ma boisson, je me dessèche comme l'herbe. » La repentance, c'est quand même aussi, ça passe aussi par un sentiment amer du péché. Et une conversion sans repentance et une repentance sans souffrance, ça n'existe pas. C'est pas réel. Ça n'existe pas. Et si les chrétiens sont parfois tellement fragiles, inconstants et versatiles, est-ce que c'est probablement parce que justement ils n'ont pas voulu franchir ce passage trop souvent évité. Et il faut quand même se poser la question sur ce point. Et puis, si je poursuis, eh bien, l'apôtre Paul nous parle d'une repentance à salut dont on ne se repent jamais, d'une tristesse à salut dont on ne se repent jamais. Hein ? Pourquoi ? Parce que la suite est là. La suite, c'est quoi dans la repentance ? C'est d'abandonner le mal, c'est de changer de conduite, que les choses anciennes soient passées, que les anciens chemins soient abandonnés, que les anciens vices soient rejetés, que toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est pour ça qu'en même temps, il nous faut revenir à Dieu, parce que c'est lui qui nous aidera à abandonner le mal. C'est lui qui nous rendra capables de changer. C'est lui qui donnera la force de ne pas y retomber. C'est lui qui nous aidera à persévérer, à bien faire. Et sans lui, nous ne pouvons pas y parvenir, malgré nos intentions les meilleures. Mais avec son secours, avec sa grâce, avec sa toute-puissance, eh bien cela se fera. Amen. Pour ce qu'il est marqué, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Alléluia. Ou encore à celui qui est capable, par sa puissance qui agit en nous, de faire infiniment au-delà de tout ce que nous espérons, imaginons ou pensons. Amen. Amen. Et puis vous avez ensuite la période de la restauration. Cette période de restauration dont il est question aussi au verset 25, au verset 27 et au verset 30 et 31, je lis simplement ce dernier passage, 30 et 31, « Exauce-le des cieux, du lieu de sa demeure et pardonne. Rends à chacun le son de ses voix, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Ainsi ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à leur père. » C'est vrai que quand il y a cette vraie repentance, quel exaucement, quel pardon des péchés, quelle assurance du pardon des péchés, quel soulagement du cœur, quel encouragement par la parole de Dieu, quelle pluie de bénédiction et de grâce, quelle guérison, quelle délivrance à ce moment-là, quelle paix, quelle joie, quelle assurance, quelle purification du cœur, quelle reconstruction de l'être, alléluia, quelle crainte de Dieu durable et bénéfique, combien il vaut la peine de se repentir sincèrement et profondément comme ce texte nous enseigne. Amen, amen. Et puis nous arrivons à notre cinquième point, après avoir passé celui-là qui nous a pris un peu de temps, l'importance de l'esprit d'évangélisation. C'est quelque chose qu'on trouve au verset 32, jusqu'au verset 32 et 33. « Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Amen. » Et voilà encore une circonstance tout à fait favorable de l'exaucement dans la vie d'un croyant. Tant qu'il a le désir que d'autres puissent venir à Dieu, qu'il a un véritable amour des âmes perdues, qu'il agit pour que la parole de vie soit portée à ceux qui sont encore dans la mort, eh bien Dieu aura une grande liberté pour exaucer sa prière. Tant que l'amour de Christ le pressera, tant qu'il se souviendra qu'il était lui-même dans les ténèbres et que la lumière lui était apportée, et que donc il trouvera très juste et légitime d'être à son tour un porte-flambeau pour d'autres, Dieu répondra spécialement à ses prières. Alléluia. Tant qu'il aura le feu de Dieu dans son cœur pour cette grande cause, le Seigneur mettra spécialement sa main sur lui pour le bénir. Amen. Amen. Et puis notre avant-dernier point, le sixième, il nous est parlé là d'un esprit de lutte et de combat. Ben oui, quand même, au verset 34. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Amen. Et voilà encore quelque chose d'indispensable pour être exaucé par Dieu. Si on veut des victoires, il faut aller au combat. Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux. Si on ne veut pas combattre, il n'y aura pas de victoire. Ah, c'est comme ça. Les terres nouvelles qui ont pu être découvertes à certains moments, ça a été rendu possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont voulu dépasser leur horizon, ils ont voulu aller plus loin, ils ont pris des risques, ils se sont engagés pour ça. Et ceux qui ont obtenu des succès dans leurs entreprises, il a bien fallu qu'ils la démarrent, cette entreprise. Il a bien fallu qu'ils la poursuivent, il a bien fallu qu'ils se lancent et puis ensuite qu'ils y persévèrent avec les travaux et les prises de risques que ça comporte. Le problème qu'on a trop souvent, c'est qu'on recule devant les risques. La devise d'Hudson Taylor, c'était « attendre de grandes choses de Dieu, entreprendre de grandes choses pour Dieu ». Voyez-vous, attendre de grandes choses de Dieu, entreprendre de grandes choses pour Dieu. Alors si nous sommes de ceux qui veulent aller de l'avant avec Dieu, il y aura, c'est vrai, des risques. Il y a toujours des risques quand on va au combat. Mais de toute manière, des risques, voilà, il y en a partout. Et je dirais, le plus grand risque, c'est de ne rien faire. Et le plus grand risque, c'est d'être en dehors de la volonté de Dieu. Parce que quand on ne fait rien, de toute façon, on est en dehors de la volonté de Dieu. Et ça, c'est le plus grand risque qui soit. Et c'est pour ça que ceux qui risquent pour Dieu et qui risquent pour sa cause, eh bien, ils ont l'assurance de la présence et du secours de Dieu. N'est-ce pas suffisant pour nous garantir et pour nous soutenir, hein? Et ça compense n'importe quel risque, et c'est vraiment une assurance supplémentaire d'exaucement. Amen. Et puis, il nous est parlé enfin, du verset 40 au verset 42, de l'importance de la présence de Dieu. Hein? Là, verset 40, « Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts. » Que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oin. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Alléluia. Le plus important, c'est que Dieu soit là. C'est que Dieu soit avec nous et que nous soyons avec lui. C'est le plus important. Le palais, le temple le plus merveilleux, sans la présence de Dieu, n'est rien. Hein? L'homme le plus puissant, le plus sage, ce qu'était Salomon en ce temps-là, n'est rien hors de la présence de Dieu et de sa communion. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le passage de Jean 15 est extraordinaire à ce point de vue-là. Il rappelle, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et encore, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et encore, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et voyez-vous, et ce passage nous ramène évidemment à cet exaucement de prière. Donc, suivant ce qui est dit là, dans ce passage qu'on vient de lire, dans 2 Chroniques 6, verset 40, il est question des yeux de Dieu ouverts. Il est question des oreilles de Dieu attentives à la prière qui est faite ici. Il est question de Dieu lui-même qui vient, en verset 41, de Dieu qui donne le salut, de Dieu qui fait jouir ses bien-aimés du bonheur. Et au verset 42, que Dieu ne repousse pas ceux qui viennent à lui, Dieu accordant toutes sortes de grâces. Voilà en effet ce que le Seigneur veut faire. Le désir de Dieu de bénir et de sauver est réel et puissant. Il veut faire de grandes choses, de grands miracles, de grands prodiges dans les vies. Alors rappelons-nous simplement ces quatre choses. L'importance de l'engagement public à marcher devant le Seigneur, on a pu voir. L'importance de l'état du cœur, de manière à lui rendre un culte en esprit et en vérité. L'importance d'une repentance véritable et profonde. Et un fond, l'importance de réaliser sa présence maintenant et de la désirer de tout notre cœur. Béni soit son nom. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons parce que tu es toujours le Dieu fidèle et agissant. Nous te remercions parce que tu es présent en esprit. Seigneur, tu nous as fait cette promesse que tu serais au milieu de ton peuple. Tu serais attentif à chacune et à chacun. Et nous te remercions pour la grâce dont tu uses à notre égard en abondance. Te remercions pour ce désir qui est le tien, le désir de faire grâce, le désir d'intervenir, le désir d'agir puissamment. Sois glorifié pour cela, Jésus. Et merci pour toute bonne œuvre que tu opères encore par ta parole et par ton esprit en chacune et en chacun de nous. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia.